vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Une dernière fois avant 2026, les coups de cœur des radios de la Ferrarock vous sont présentés dans ce magazine dédié aux découvertes musicales. Il s'agit cette semaine du disque The Storm Is Coming par No Jazz Quartet, ainsi que Melchior volume 1 de Forever Pavo. Et pour la carte blanche, c'est Loïc qui reçoit à Radio Duo DJ Radio Barjo pour partager ses trouvailles de groove, électro, funk en provenance du Maghreb et du Moyen-Orient. Discussion et Selecta à retrouver en fin d'émission. Forever Pavo confie son savoir fou à un double robotique dans Melchior volume 1, le cinquième album d'Émile Sournin, dont au son kraut nourri à la pop vintage et porté par une voix vocodeur. No Jazz Quartet est initialement un groupe de reprises, mais il se dessinait tout de même chez les Marseillais une tendance à la composition, appétence qui n'est plus du tout dissimulée dans The Storm Is Coming, leur deuxième album que l'on découvre tout de suite avec Denis de Radioactive à Toulon.
Alors bonjour les No Jazz Quartet, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Ok, alors moi c'est Cédric ou James sur le disque, je joue de la guitare et je chante aussi.
Et donc moi je suis Paul, Sonic Polo pour les intimes, et je joue de la guitare, je chante également. Ouais.
Emmanuel, Manu à la batterie.
Pierre à la basse.
Au départ, No Jazz Quartet c'était un, si j'ai bien compris, un projet de reprise.
Oui.
Donc entre vieux copains marseillais, voilà, comment s'est passé un peu la transition entre un groupe de reprises et puis pour aller vers vos propres compos?
En fait, on s'était dit, ça fait longtemps qu'on était dans des... Enfin, Manu et moi, on avait un duo, on pensait peut-être, on évoquait l'idée de rajouter, parce que guitare, batterie tout seul, c'était peut-être un peu...
C'était les White Stripes marseillais.
Voilà, et on se disait, bon, peut-être on va rajouter quelqu'un, et puis... Bon, Polo, il avait un groupe qui était pas en fin de parcours, mais
ouais.
Oui, un petit peu, c'est ça.
Ouais, c'était Mali un peu.
Ouais, voilà, un peu.
Ouais, c'était la basse. Non, c'était Keith Richards Overdose, en fait, qui tirait sa révérence, en fait.
Voilà. Et donc, on s'est dit, bah tiens, ce serait rigolo de faire un truc ensemble. Et puis, on s'est dit, bah, on va faire un exercice qu'on fait jamais, c'est-à-dire faire un répertoire de reprises. Donc, on a sélectionné un certain nombre de reprises.
C'était assez varié.
C'était assez varié, ouais. J'ai essayé d'imposer trois quarts d'Hélicocrate, mais je me suis fait rembarrer. Mais du coup, c'était quand même pas mal dans la mouvance punk, post-punk, rock alternatif, indépendant.
Ouais, Strangler, rock aussi.
Voilà,
il y a les Stooges. Les
MC5, les
Stooges.
Et même les Young Gods.
Young Gods, Nick Cave.
Ouais.
C'était pour le fun, en fait. C'est juste pour. On a fait ça pour le fun et pour faire juste un concert à Lollipop, en fait. Donc, le magasin que.
Que je co-dirige,
merci. C'était un one shot.
D'accord.
Mais comme on s'est bien amusé,
on s'est bien amusé, puis les gens qui étaient là nous ont encouragés en disant tiens, vous devriez continuer.
Puis on s'est bien éclaté en répète aussi.
On s'est bien éclaté.
On s'est dit comme ça. Voilà, on s'est dit putain, ça fonctionne bien entre nous. Ben, on va continuer finalement.
Toi, Paul, pour Lollipop, tu es quand même en contact direct avec beaucoup de gens de la scène, de la scène rock indé de Marseille. Comment tu vois cette nouvelle génération? Parce que si on vous a été vu un peu les vieux de la vieille ici, sans vous faire injure.
Non,
quel regard tu portes?
On a tous 35 ans et c'est ça.
Moi je suis épaté quoi par cette scène marseillaise. J'ajoute que bon ben ça fait 19 ans que je suis à Marseille, mais je suis aussi venu à Marseille après avoir passé un quart de siècle à Paris. Tu vois, où tout le monde montait à Paris. Moi j'ai au bout d'un moment j'ai préféré descendre sur Marseille parce que je sentais que il y avait quelque chose.
Un potentiel.
Tu vois, je connaissais les Electrolux entre autres, donc le précédent groupe, un des précédents.
C'est là où vous avez joué tous les deux.
Cédric et moi,
tu vois.
Et puis
d'autres, et Stéphane qui est mon associé, donc qui a toujours ce label qui s'appelle Lollipop Records. On a gardé le nom, tu vois. Moi j'avais un magasin à Paris, on a gardé le nom du label, c'était le plus malin. Et finalement, cette scène n'a pas arrêté de se renouveler, déjà avec aussi les nouvelles générations qui arrivent. Tu vois, il y a tout un tas de vingteneurs qui débarquent et qui jouent déjà super bien. Ce que j'aime bien aussi ici, c'est que déjà tout le monde se parle. Il y a pas, je trouve qu'il n'y a pas de concurrence même entre générations. Tu fais de la pop, moi je fais du punk. Super.
T'as besoin d'un tuyau pour une salle, on te le file.
On est potes,
tout le monde se sent solidarité.
Et je trouve qu'il y a un très bon niveau.
Il y a un écosystème en fait, entre les salles, les groupes, toutes les infrastructures culturelles, et puis un vrai public de passionnés, alors qui se renouvelle en plus. C'est qu'il y a quelques années, moi je m'inquiétais un peu en me disant finalement le public rock ici vieillit, mais on voit qu'il y a des groupes qui sont suivis par des gens de leur âge, quoi. Tout ça crée en effet un environnement ultra favorable pour le développement d'une scène formidable qui fonctionne en synergie. Parce que voilà, les gens sont solidaires, ils s'entraident, ils s'apprécient mutuellement.
Le seul problème, c'est que bien souvent, on se rend compte que le reste de la France n'est pas forcément conscient de ce qui se passe ici. Mais ça, c'est bon, c'est vieux comme Marseille, j'ai l'impression.
Ouais, c'est un peu le jeu des médias, atteindre les médias parisiens, ouais. On n'est peut-être pas les mieux placés.
Je parlais il y a quelques jours avec la bassiste de La Flemme, qui est le groupe, on va dire, signé en ce moment, tu vois, et Stella me disait, on en a marre, parce que chaque fois qu'on fait une interview ou que ce soit, c'est « alors alors, il y a du rock à Marseille, tu vois. » Ils ont carrément demandé à leur attaché de presse de demander justement aux journalistes d'arrêter avec ce genre de questions, qu'on parler de notre musique, puis on en a marre de vous expliquer que oui, il y a du rock à Marseille. Nous, dans notre milieu rock, à Paris, entre guillemets, on va dire, les gens, ils n'ont pas conscience de ce qui se passe ici. C'est pas que Pastis, Pétanque et Kalachnikov, tu vois. Non, mais souvent, c'est ça.
Bah, nous, on a eu droit à chaque fois en tournée, ouais. Que ce soit en Belgique, en Suisse, dans la France, mais alors vous avez la Kalachnikov dans les tuyaux, alors la mafia, vous en faites partie. Enfin,
étaient des musiciens aussi qui ont peur de jouer à Marseille. J'en parlais encore avec Lionel qui était le programmateur du Poste à Galène.
Ouais.
On parlait de ça il y a quelques jours, et moi ça m'est arrivé aussi de croiser des gens qui flippaient vraiment de jouer à Marseille, hein, qui n'osaient pas sortir du club.
À une période où vous aviez assez de morceaux pour faire pour faire un album en fait.
Ouais. Pas vraiment, mais
pas en vraiment.
Tout cas, assez de morceaux pour faire de la scène. Ouais.
Pour faire de la scène, d'accord.
On n'avait pas un répertoire très étendu.
Ce qui veut dire, c'est que la période du Covid, elle était assez sinistre, puisque de fait, on ne pouvait pas se produire. Et c'est vrai qu'on s'est un peu repris.
4 concerts avant le Covid.
Voilà, ouais. On avait fait juste 4 concerts, le temps de se mettre en selle. Ça a été une longue parenthèse au cours de laquelle on a beaucoup écrit, puisque de toute façon on n'avait pas grand chose d'autre à faire. Des 6 morceaux initiaux qui nous avaient permis de faire nos premiers concerts, on est passé à presque le double, si ce n'est plus.
À 16.
Ouais, voilà. Et on s'est dit, on passe en studio, on enregistre, et puis on a la matière pour faire un premier album, quoi.
Donc on arrive, on fait 16 titres en studio. Voilà.
Moi je trouve que cet album, ce premier album, est un petit peu plus sombre que le nouvel album. que je trouve un peu plus lumineux. Alors est-ce que vous pensez que c'est, voilà, c'était quand même assez triste cette période là
on a un morceau qui est vraiment référencé, que Polo a écrit, enfin des textes en tout cas, ce qui parle du Covid, Dark Wind, mais enfin d'un point de vue particulier dans les réserves amérindiennes, etc. Après c'est vrai que on s'est lâché sur ce qu'on aimait vraiment, mais en tout cas c'est vrai que il y avait ce climat un peu particulier, un peu pesant, qui est aussi lié ces compos qu'on avait amenés.
Un peu sombre aussi, un peu sombre, peu, ouais. Un peu, c'est un peu peut-être des influences Bar des parties, des groupes comme ça, quoi. Mm-hmm. Et, mais c'est pas un calcul. De toute façon, dans tout ce qu'on fait, il y a vraiment pas de... On se dit jamais, tiens, on va faire un album ou un morceau qui est plus lumineux ou moins, ou plus gay, ouais, ou plus ceci,
on
ou plus
cela. On prend les choses vraiment comme elles viennent, quoi.
Dès qu'il y a une suite de notes, un riff, trois accords qu'on sent bien, qui nous plaisent, on suit la pente, en fait. C'est un peu ce qui... on est souvent d'accord là-dessus, on va au bout, quoi. Où est-ce qu'on s'est abouti ?
C'est une formule qu'on partage un peu entre nous. On trouve que les morceaux, il y a une pente naturelle. C'est un truc qu'on a appris avec le temps, c'est que les morceaux, en fait, ils nous amènent dans une direction. C'est vrai que c'est difficile, tu sais, de tordre un morceau. C'est-à-dire qu'il t'amène lui-même où finalement on aboutit. Parce que des fois on se dit, bah tiens, on va accélérer, on va ralentir, puis ça fonctionne pas. À l'inverse, des fois on propose justement des pistes de travail par rapport à ce qui a été sommairement ébauché, et puis très vite les choses se mettent en route, en ordre, et s'ébauchent finalement sans même des fois que on ait besoin de tellement intervenir, les choses se font.
Donc du coup, votre façon de travailler, c'est plus sur des, à partir de jam, collectif, ou alors...
collégial.
Ou alors quelqu'un amène à riff, quelque
chose. C'est souvent ça.
C'est très collégial, hein. Personne ne dit, bon ben voilà, on va jouer le morceau comme ça.
Surtout qu'on a compris que c'est pas la peine d'amener un morceau fini, parce qu'il va être complètement tordu, parce que chacun va amener quelque chose. Et en fait, c'est une piste de travail. Et puis on sait pas, la plupart des trucs qu'on a amené, ça ressemble pas du tout à ce qu'on a amené sous la forme où on l'a présenté au début, quoi.
Ouais, c'est quelque chose de brut, c'est un peu de la sculpture quelque part, quoi. C'est essayer de trouver la forme qui est contenue dans une espèce de masse, quoi. C'est un peu simple.
Il y a aussi le fait que personne n'est leader, personne n'a envie d'imposer. Comment ça ?
Vous la faites aux inconnus, là.
Personne n'a envie, tu sais, d'imposer vraiment son point de vue, son regard artistique.
Ouais. Non, t'es au service
du morceau. Voilà, il arrive avec une compo, modestement, qu'il accepte de laisser les autres reprendre, travailler à leur façon, et puis ensuite, par petites touches, le
morceau. Moi c'est vraiment ce qui m'a séduit avec ce groupe. Pour avoir joué dans pas mal d'autres groupes avant, c'est vraiment ce qui me plaît, c'est que...
Côté démocratique, un peu.
Ouais, puis c'est au-delà de ça, ouais. C'est que, quelque part, tout le monde va essayer, quoi. Tu vois, tu vas arriver avec une idée, ça nous est arrivé des fois, tu vois, avec un riff, ouais, bidon, mais une fois, tu m'avais sorti un truc, ton truc, il est cucul après lui, il m'avait sorti, tu vois.
Ouais, ouais.
Et ok, mais on essaye quand même, tu vois, on essaie quand même, et bah quelquefois ça marche pas, bon bah la poubelle, il n'y a aucun regret, quoi.
Et
quelquefois, finalement, on a trouvé une façon, un petit détour qui fait que ça sonne, et continuons, quoi. Mais puis on a passé l'âge aussi de dire, ouais, on va faire du punk, on va faire de la pop.
Fait ce qui nous glisse sur les doigts.
C'est un travail d'équipe, c'est pas une confrontation d'ego comme dans certains groupes où tu veux imposer un morceau note à note, etc. Ouais. Effectivement, s'il y en a un qui dit, bah, ta partie elle est pourrie, bah, c'est pas grave, on en fait une autre.
Et puis tout le monde a envie de s'investir dans l'écriture des chansons. Tout le monde a envie d'y apporter sa patte, sa touche. Et justement, au fur et à mesure, y a des idées qui sont pertinentes, on les prend, d'autres qui sont moins pertinentes, on les abandonne. Et le morceau, il suit comme ça cette espèce de pente pour nous amener à la phase achevée, quoi. Voilà, le morceau à un moment donné est achevé.
Et même pas, des fois il y en a qui changent encore.
Oui, on les fait. Oui, c'est un work in progress, hein. On les fait évoluer même encore, tu vois, sur les mesures, sur les solos, il y a des choses qui changent. Le fait d'aller en studio, des fois. My body's hurt, man's left the building. Oh, what
nuages se déplacent. Dans l'espace-temps.
Avec nos précédents groupes, souvent, moi, comme la plupart des groupes de rock, garage rock, tout ça, tu vas en studio, tu restes 3 jours, 4 jours, boum, quoi. Et alors que là, on a la chance, donc au local 54 Studio, là, donc on a enregistré les deux albums, de pouvoir y aller quand on a un ou deux morceaux, c'est ce qu'on fait maintenant. On a un ou deux morceaux terminés, on y va, on fait ça sur un an quasiment. Ça permet d'avoir beaucoup de recul, et puis on a la chance aussi de bosser, enfin le boss du studio, donc il s'appelle Jark. On le considère un peu comme notre producteur, quoi. C'est ouais. Un gars qui
est un sacré Beatles.
Et il a réussi vraiment quelques fois à pousser des morceaux plus loin, tu vois, que ce que nous on aurait fait, quoi. Il y a certains morceaux donc, qui étaient même pas terribles au début.
C'est-à-dire ouais. Qu'il se contente pas simplement de vous enregistrer, il produit ouais. Vraiment. Ouais. Voilà, alors il y a des choses qui restent intactes, puis il y a des choses qui bougent vraiment, réellement, y compris. Parfois à la marge, des petites touches, des petits accents, des petites percussions, mais qui vont du coup donner à l'allure générale, à la tessiture du morceau, une autre forme.
Donc on fait un bond de 3 ans en avant, après le Covid, après ce premier album, You're Gonna Leave the Building Soon. On arrive avec The Storm Is Coming. Pourquoi ce titre? Est-ce que ça symbolise quelque chose? Est-ce que cette tempête, ça représente quelque chose pour vous?
Ça, c'est une idée qui m'est venue. J'avais un peu une ébauche de texte qui parlait un petit peu de l'inquiétude moi, que j'éprouve vis-à-vis des fascismes, des totalitarismes, couplé avec les problèmes environnementaux. Et à ce moment-là, j'avais un riff ou j'avais quelques bouts de phrases et je vais voir ce film Killers of the Flower Moon, le dernier Scorsese. Et il y a une qui m'a marqué à un moment où justement cette femme indienne qui est en train de se faire un peu par DiCaprio, qui en veut à sa fortune, à ce moment-là, l'orage arrive et elle l'interrompt, tu vois, avec cette sagesse vraiment toute indienne et en lui disant « The storm is coming », c'est-à-dire chez nous, quand l'orage arrive, on la ferme un peu, on se calme. Là, je me suis dit, tiens, c'est ce qui me manquait, en fait. Ouais. Et donc, on est parti là-dessus. Après, Cédric, qui est meilleur que moi en anglais, en général, il repasse toujours un peu derrière, quoi, pour que ça soit bien foutu, quoi.
Donc, c'est le titre éponyme de...
C'est le titre éponyme, ouais. Ouais. C'est le titre éponyme, et si tu veux, c'est un petit peu aussi... C'est un peu en écho au premier album, quoi. Ce que ça signifie, Ganelio de Building Soon, c'est en fait, on va tous crever, que c'est de l'argot américain plutôt qu'anglais. Ouais. Et en gros, qui veut dire, on va tous bien te casser notre pipe, en gros, c'est ça, tu vois. Donc là, quelque part, là, vraiment, la tempête arrive. Le troisième, je sais pas ce que ça sera.
Après avoir réussi avec brio l'exercice de la bande originale, Émile Sornin officine de nouveau pour Forever Pavot 2 ans après la sortie de l'Idiophone. Place à Melchior, le volume 1 que l'on découvre aux côtés de Yann de Canal B à Rennes.
Hello. Waiting for the sign. We'll be right back.
Le titre Waiting for the Sign sur le nouvel album de Forever Pavot, Melchior Volume 1. C'est sorti chez Born Bad le 28 novembre dernier. Vous avez déjà entendu sur les radios Ferrarock certainement les deux premiers singles, UFO et Waiting for the Sign. Ça tombe bien, on l'écoutait à l'instant avec un des featuring de l'album. On retrouve évidemment Melchior à tous les endroits. On verra qui est Melchior avec Émile Sornin. Tiens, salut Émile, tu es là?
Salut.
Cet album qui nous renvoie aussi bien du côté de Wendy Carlos, de Jean-Jacques Perret peut-être aussi, et puis évidemment de la belle écriture pour le cinéma en France ou en Italie, de Armando Trovajoli à Morricone, en passant par François Droubet. Voilà un peu là où on est. Alors, on garde toujours quelques éléments qu'on connaît chez Émile Sornin, chez Forever Pavot, mais à chaque fois des strates nouvelles apparaissent. Est-ce que c'est comme ça que tu conçois ton travail, Émile, rajouter de plus en plus de choses, mais en gardant des espaces communs?
J'intellectualise pas trop les choses, je t'avoue. La première chose qui est certaine, c'est qu'il faut que je m'amuse et il faut que je sois stimulé par des idées. Et là, en effet, l'idée de travailler avec Melchior, ce robot que j'ai conçu avec Jonas Oeuvremer, un ami à moi, c'était l'idée pour une espèce de prétexte pour essayer de trouver une nouvelle direction un peu plus électronique à ma musique, mais en gardant évidemment quand même tout le background que j'ai de ces 10 dernières années avec Forever Pavot.
Melchior, moi je le vois, hein, puisque je te vois en vidéo pendant qu'on fait cette discussion, il est derrière toi dans ton studio. Melchior, on peut le voir comme un croisement entre les premiers automates, Bender de Futurama, il y a un peu de HAL peut-être de 2001, l'Odyssée de l'espace aussi chez lui, et puis les robots musique. Alors je sais pas si tu connais les robots musique, mais ça c'était des attractions foraines dans les années 1950-1960, des robots qui faisaient véritablement de la musique. Est-ce que Melchior fait véritablement de la musique tout seul ou est-ce qu'il a besoin de ton aide quand même?
Non, il est complètement autonome. On a veillé à ça pendant sa fabrication, qu'il soit vraiment autonome et qu'il puisse m'aider. En fait, moi j'avais besoin d'aide pour ce nouveau disque et il a été là. On a vraiment fait l'album à quatre mains, donc il est complètement autonome. Il a ses idées. Il avait son cahier des charges et il m'a guidé dans cette direction. Je lui ai complètement fait confiance et voilà, c'est lui qui m'a vraiment guidé, quoi.
À une époque où on voit de plus en plus apparaître des androïdes qui viennent aider les humains, alors c'est encore du concept, ça va bientôt être en vente en boutique et d'artis, ça c'est sûr. Et au moment où l'intelligence artificielle aide certains qui n'ont pas beaucoup d'idées à faire de la musique, toi tu fais ta musique avec un robot que tu as programmé, donc il est un peu toi quand même, Melchior.
Ouais, bien sûr, donc je te disais tout à l'heure, c'est Jonas Oeuvremer et moi qui l'avons programmé. Et il y a évidemment un clin d'œil à toute cette époque que je trouve très intéressant et qui d'un côté peut être un peu terrifiant avec ces histoires d'IA et ces robots qui sont de plus en plus proches de nous. Et moi, par contre, j'avais très envie de quelque chose de très artisanal. En fait, j'insiste beaucoup sur le fait que Melchior a été fabriqué avec avec de la récupération, que ce soit toute sa partie vestimentaire, mais aussi toute la technique qu'on a utilisée. C'est vraiment de l'artisanal, c'est du bricolage, c'est quelque chose qui est vraiment fait maison, et ça j'y tenais beaucoup. Moi je ne vis pas dans mon studio, lui il vit au studio, donc il reste là malheureusement tout seul la nuit, mais ça a pas l'air de le déranger trop. Donc le matin, ben on prend notre petit café ensemble, on discute de ce qu'on va faire dans la journée, et puis on commence à travailler dans la matinée, quoi. Mais ouais, lui il vit ici, il vit entouré des synthétiseurs et de toutes les machines que j'ai pu accumuler après toutes ces années, quoi.
On le sait, la musique de Forever Pavo, ta musique, elle est souvent très instrumentale, elle est beaucoup plus bavarde, je trouve, sur cet album Melchior volume 1. Mais tu as eu envie d'avoir quelques invités. On entend ta voix avec du vocodeur. On entend aussi la voix de Melchior, ou c'est seulement ta voix et le vocodeur ?
C'est nos deux voix mélangées. Il y a certains, ça dépend des morceaux en fait. Il y a des morceaux où nos deux voix se mélangent. Et il y a parfois où c'est uniquement Melchior qui chante. Je pense au morceau Godbot. Là, pour le coup, c'est lui qui a tout fait, qui a tout écrit les paroles et qui a chanté sur le morceau. Moi, je n'interviens pas du tout avec ma voix. Et il y a certains morceaux où nos deux voix se mélangent. Et en effet, j'ai fait appel à des artistes avec qui je voulais travailler depuis un moment. Et surtout aussi, c'est Melchior qui m'a un peu poussé. Il connaissait très bien le travail, par exemple, de l'inspecteur. Il avait envie de travailler avec elle. C'est lui qui m'a soufflé et qui m'a dit, tiens, tu veux pas qu'on essaie de la contacter? Et pareil avec Kumi Solo. J'avais envie de travailler avec ces gens et apporter aussi une autre couleur avec ce nouveau disque, quoi.
Il y a eu beaucoup de morceaux instrumentaux dans ta carrière, mais pas seulement. Je pense aussi à deux BO pour des films de Monia Chokri, hein, Babysitter et Simple comme Sylvain. Et puis il y a eu l'année dernière ce Forever Pavo et XP The Marksman. Mais quand même, cet album depuis 2014, hein, il me semble, est-ce que je me trompe pas, peut-être non, c'est ça. Est-ce que tu te vois comme un hyper productif, hyper actif, et est-ce que c'est aussi pour ça que tu as voulu créer Melchior, pour lui filer une partie du job ?
Il y a un peu de ça. Après, alors, moi, je considère pas que j'ai fait 7 albums. En fait, j'ai eu plein de projets annexes, comme t'as dit. Les BO, c'est des choses qui se font sur des courtes durées aussi. Le disque de hip-hop que j'ai fait avec XP The Marksman, c'est un album qui s'est fait aussi en très peu de temps. Les vrais albums que je considère, c'est les 4 que j'ai fait chez Born Bad. Donc c'est, là, celui Melchior volume 1, c'est plutôt le 4e album. Donc moi, je suis pas tant hyperactif que ça. En fait, si tu regardes bien, ça fait 12-13 ans que je fais des albums. Si tu regardes, voilà, s'il y a 7 projets, bah, ça en fait pas tant que ça, hein, ça en fait un tous les 2 ans à peu près. Donc voilà, mais moi j'avais besoin en tout cas d'être stimulé sur cette nouvelle direction. J'avais l'impression un peu de tourner en rond, tu vois aussi. Ça fait quelques albums que je tourne un peu dans cette direction de la musique de film années 70, le côté élégant français. Tout ça me gonflait un petit peu, pour être assez honnête. J'avais envie d'essayer d'autres, des nouvelles choses, et je pense qu'on ira encore plus loin sur le volume 2 avec Melchior. Là, on avait ce cahier des charges de ne pas mettre de clavecin, de piano, de cordes, chose que j'avais toujours fait un peu dans mes disques, d'avoir le côté un peu comme ça, grandiloquent, musique de film. Et donc là, on avait envie de quelque chose de beaucoup plus minimaliste, plus électronique, même si il y a toujours évidemment ce côté pop que j'aime beaucoup, parce que c'est ce que j'aime le plus, moi, dans la musique, c'est les thèmes et la mélodie. Mais voilà, Melchior m'a vraiment aidé à aller dans cette direction-là, et j'espère qu'on va se faire encore plein de projets tous les deux comme ça dans les prochaines années à venir, quoi.
On écoute un morceau avec une autre collaboration. Tu nous en parleras juste après, si tu veux. Ce titre, Count to Ten, featuring Domotic.
And even when the mirror's torn,
Vous écoutiez à l'instant un extrait de l'album Melchior Volume 1 par Forever Pavo. C'était Count to 10 avec Domotic. Comment tu l'as choisi ce casting finalement ? Est-ce que c'est elle et eux qui sont venus vers toi ou tu savais exactement qui interviendrait à quel moment ?
Kumi Solo et l'Inspector, c'est vraiment des idées de Melchior. C'est Melchior qui m'a dit voilà, je connais leur musique. C'est même lui qui m'a fait découvrir leur musique et donc on les a contactés ensemble. Donc ça dans un premier temps. Et Domotic qui est monsieur Stéphane Laporte, avec qui j'ai déjà travaillé. En fait, il avait déjà mixé et coproduit mon album La Pantoufle, donc c'était il y a 5-6 ans, je crois. Donc c'était le deuxième album de Forever Pavo. Et depuis, on est devenus des amis proches, on se voit régulièrement. Et donc sur ce disque-là, comme Stéphane fait de la musique sous le nom de Domotic, il y a une partie de sa musique qui peut être très électronique, et avec beaucoup de textures comme ça, qui me plaît beaucoup. Je lui ai proposé aussi de mixer cet album. Et en fait, comme il peut pas s'en empêcher, Stéphane, quand il mixe des disques, il est presque en train de faire de la production en même temps. Donc il a fait ce que j'appelle moi de la post-production, c'est-à-dire qu'il a pas été avec nous pendant tout le projet de composition et d'enregistrement, mais après au mix, il peut pas s'en empêcher de faire passer les instruments dans des bandes, dans des délais, dans toutes ces machines qui rajoutent de la texture et qui c'est assez fascinant ce qu'il peut faire. Et en fait, on était en train de mixer le disque, il y avait ce morceau Count to Ten que j'arrivais pas trop à finaliser, j'étais un peu bloqué, et puis Melchior aussi, il avait pas trop d'idées, on savait pas trop quoi faire. Et donc on était en train de mixer l'album, et donc j'ai proposé à Stéphane, donc Domotic, de voir s'il avait envie d'essayer de faire quelque chose. Donc c'est lui qui a composé le refrain, et on a terminé ce morceau ensemble, et j'étais hyper content parce que je suis vraiment un fan de sa musique, et puis c'est vraiment un ami, donc c'était assez logique de lui proposer de travailler sur ce morceau, quoi.
La version live de Melchior Volume 1, elle a déjà commencé à se montrer ou ça arrive bientôt ? Comment ça va se passer cette tournée avec un personnage qui n'était pas présent sur les tournées précédentes ?
La première chose qui est importante de savoir, c'est que ça faisait 12 ans que je travaillais avec le même groupe et j'ai décidé de changer un petit peu tout ça. Maintenant, on est en quatuor, donc avec Antoine Rowe qui fait de la basse et qui faisait de la guitare avec moi depuis une quinzaine d'années dans Forever Pavo. Un nouveau venu qui s'appelle Danny Kendricks qui a la batterie et au clavier, et Melchior avec nous qui est donc Melchior, lui c'est pas évident parce que c'est sa première tournée, il a jamais fait ça, donc il est un petit peu stressé, je crois, et on va essayer de le détendre avant de partir en tournée. Mais ouais, c'est une première pour lui parce que il a évidemment il connaît pas ce que c'est que la vie de tournée, partir en camion avec des musiciens, faire le tour des villes et aller présenter nos morceaux. Donc ça va être quelque chose de très très sympa, et moi je suis très excité à cette idée là c'est pas simple à mettre en place pour tout avouer, parce que un robot ça a ses petits caprices aussi, et on va voir un peu ce que ça donne sur scène. Mais en tout cas il est là avec nous, il fait du clavier, il chante un petit peu, il danse parfois, il intervient un petit peu entre les morceaux, on communique avec lui dès qu'on peut. Mais voilà, ça va être un truc, en tout cas, quelque chose de très excitant pour nous quatre là.
Pour les participations donc de l'Inspector, de Kumi Solo, de Domotic, vous ne serez pas avec elle et lui.
Malheureusement, on peut pas emmener tous nos copains avec nous en tournée. Ce serait une logistique bien complexe. Donc il y a certains moments où on va essayer de se retrouver sur certaines dates en France. Je pense à la Maroquinerie à Paris là le 12 février pour notre date parisienne. Là, en tout cas, c'est prévu que Kumi Solo et l'Inspector viennent chanter sur scène. Domotic, on n'en a pas encore trop parlé, on va voir ce qui est possible de faire. Mais voilà, il y aura aussi d'autres invités, des gens avec qui j'ai travaillé sur les autres disques. Voilà, il y a quelques surprises qui sont prévues en tout cas, mais évidemment, malheureusement, on ne peut pas les emmener avec nous, ça serait un peu trop compliqué en termes de logistique.
Avant de terminer cette discussion et que tu nous présentes un petit peu Shoppers on the Run, le morceau avec lequel on va terminer la discussion, tu as fait des études de cinéma, tu as fait beaucoup de clips vidéo, tu as fait des bandes originales de films, tu as créé un Android puis fait de la musique. Est-ce que là, vraiment, tu es arrivé presque à certaines limites dans la musique, il faudrait que tu ailles vers au-delà encore, vers la création au-delà, et donc le cinéma, est-ce qu'il t'attend un jour en tant que réalisateur ou pas ?
Non, c'est pas prévu, en tout cas j'ai pas cette envie pour l'instant. En fait, je sais pas, j'en ai aucune idée. Là, je suis tellement excité avec cette nouvelle idée de Melchior. J'ai l'impression d'avoir 14 ans, d'avoir un nouveau groupe. C'était aussi un prétexte pour en faire de la vidéo. Tu sais, tout ce qu'on nous demande à nous, les artistes aujourd'hui, qui peut être un peu fatigant d'être très présent sur les réseaux sociaux, de faire de la publicité pour ce qu'on fait. C'est tout un monde avec lequel je suis pas hyper à l'aise. Et en fait, le fait de fabriquer ce robot, c'est tout un prétexte pour m'amuser à détourner tout ça et à en faire des vidéos, à me marrer. Donc moi, pour l'instant, je suis là-dedans. Je sais pas très bien ce que je ferai plus tard. Moi, tout ce qui m'intéresse en ce moment, c'est de m'éclater avec Melchior, de tourner avec ce nouvel album, et puis de faire de la musique de film, parce que c'est toujours aussi ma deuxième passion et que je vais continuer à faire durant l'année et puis les prochaines années, je l'espère. Donc voilà, non, le cinéma pour l'instant, c'est pas prévu. C'est tellement un autre monde. C'est tellement compliqué, c'est tellement des enjeux incroyables. Là, je suis bien là dans mon petit studio à faire des bêtises avec mes robots et mes synthés. Je crois que ça me suffit pour l'instant amplement.
Terminons en tout cas avec ce titre. Et qu'est-ce qu'il nous envoie comme image potentielle, ce titre Shoppers on the Run? C'est qui ces acheteurs qui s'en vont en courant?
Tout ce que je peux te dire, c'est un texte de Melchior. Et de ce que j'ai compris, c'est une course-poursuite dans un supermarché, dans des caddies.
Ça fera peut-être l'objet d'un court-métrage pour illustrer le morceau, je ne sais pas. En tout cas, on est avec Émile Sornin, Forever Pavot. Et puis, Melchior était pas loin sur cette évocation et présentation de l'album Melchior Volume 1. Il y en aura d'autres volumes, forcément, sortis chez Bornemann le 28 novembre. Merci et puis bonne tournée à vous.
Merci beaucoup, bonne journée.
Radio Barjo est un DJ mélangeant afrobeat, musique sud-américaine et électro-maghrébine, le tout mixé sur vinyle. Il s'est arrêté à Radio Dio, Radio Ferraroc de Saint-Étienne, pour un bavardage musical.
Mon projet de DJ, c'est Radio Barjo. Ça fait une dizaine d'années que... en fait, tout commence... Allez, je reviens très très loin aux origines.
Mais oui, carrément.
Je viens d'une famille qui écoute beaucoup la musique. Hein. J'ai baigné dans le monde musical, hein, avec un papa musicien qui jouait de la guitare et qui jouait de la flûte, hein, d'origine berbère, qui a animé, en tous les cas, qui a fait ses shows sur des mariages, mais il y a très très longtemps. Et puis voilà, moi j'ai des grandes sœurs qui ont pas mal voyagé, qui ont ramené de la musique à la maison, hein. Notamment je pense à un groupe que j'ai écouté très longtemps, c'était Brooklyn Funk Essential, et c'est là, à ce moment-là, où les premières sonorités turques avec un album, je ne me rappelle plus du nom de l'album, mais c'est Brooklyn Funk Essential avec Laiko Taifa, je vous le conseille fortement. Et puis là, c'est là où je commence à avoir un intérêt pour ces sonorités orientales, turques, arabes aussi. Hein. Et puis voilà, moi je fais ma vie d'éducateur, parce que je suis éducateur à l'asile de nuit aujourd'hui. Je fais ma vie d'éducateur. Et puis à mes 40 ans, ma chérie Alice, à qui je fais plein de bisous. Hein,
grosse dédicace en direct.
Grosse dédicace.
Cœur.
Je t'aime, ma chérie. Et du coup, pour mes 40 ans, elle m'offre une platine vinyle. J'ai plein de sons en numérique, hein, mais je rêvais d'avoir une platine vinyle. Du coup, elle me fait ce cadeau pour mes 40 ans. Et l'aventure commence un peu comme ça, où je commence à collectionner des vinyles. Je fais des fêtes à la maison chez des potes en mode vinyle. Et puis un jour, je rencontre Maxime, 10-10, hein, que je salue aussi, et on commence à faire des battles dans les bars stéphanois. Je pense que y a les sonorités d'Omar Souleymane, hein, en électro dabke qui sont complètement folles. Moi, ce que j'aime voir, c'est les gens danser, et avec des sonorités comme ça, même les personnes qui sont pas forcément exposées à ce genre de musique, eh ben ils vont quand même bouger l'épaule, un petit déhanché, et puis ça va se mettre à danser. Et moi j'ai un super souvenir d'une soirée. J'ai fait plein de super soirées, mais il y en a une qui m'a particulièrement marqué, eh ben que j'ai faite avec Dr Audi à la Bobine à Grenoble. Mais 400 personnes en furie sur des sonorités comme ça, et des souvenirs incroyables. Et voilà, moi je suis toujours dans cette recherche d'électro, c'est d'électro arabe, d'électro dabke qui sont complètement incroyables, en fait. Faut aller chercher, faut aller écouter, et je pense que vous serez très surpris.
De quel œil tu vois, toi, cette engouement un peu, notamment dans le DJing, dans les soirées? J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui vont jouer. Je pense que Acid Arab a quand même impulsé quelque chose d'assez fort ici, que ça a démocratisé vraiment de dingue, et que maintenant il y a plein de DJ qui mixent ces trucs là. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, justement, ce développement un petit peu de cette zik, de cette scène? Est-ce que t'as les rencontres justement avec d'autres DJ?
J'ai pas forcément rencontré d'autres DJ qui étaient dans mon créneau musical, hein. Mais après, moi je regarde un peu ce qui se fait sur les réseaux sociaux, hein. Moi je pense qu'il y a une explosion. Cette musique là elle a toujours plus ou moins existé, mais là il y a, je sais pas, il y a, on parlait tout à l'heure de printemps arabe, mais là il y a un printemps au niveau de l'électro arabe qui est assez incroyable. Mais ça, notamment au niveau du Liban. Le Liban, c'est un pays où il y a il se passe beaucoup de choses au niveau musical. Et non, je pense que moi j'aimerais bien rencontrer d'autres DJ qui soient dans les mêmes mouvances que moi, histoire de l'échange de musique. Je pense qu'il est hyper intéressant, et ça permet aussi d'évoluer dans ses pratiques, dans ses recherches.
Qu'est-ce que ça fait vibrer chez toi? Ce sera un peu la dernière question. Après, on va laisser place à ta parole en selecta. Qu'est-ce que ça évoque chez toi, justement, ce brassage? Parce que finalement, la spécificité, et ça se retrouve un peu dans le monde entier. Il y a plein de manières de le faire en ce moment. C'est assez présent, je trouve, de passer à la moulinette une tradition régionale, musicale, avec une modernité de machine. Qu'est-ce que ça te dit dans ta tête, dans ton cœur, dans tes émotions? C'est l'introspection, là.
Ouais, carrément. Ouais. Non, c'est moi quand j'écoute ces musiques, ça, en tous les cas, ça résonne fortement fortement et véritablement un sentiment de liberté, et ça remet la musique arabe, la musique turque à sa place finalement, très souvent pas très exposée, et je pense que dans les prochaines années ça va être la musique électro-arabe va être incontournable dans les soirées, dans toutes les soirées.
Eh bien écoutez, chers auditeurs, je pense qu'il est temps d'arrêter le blablabla et on va écouter tout de suite la Selecta de Radio Barjo.
Yeah. الارمات ديك بدق على الباب وانا تحت الحاف امي على البلكون جيرتي دبري عريس احصائيات اغلب الازواج بتنام شو نفس الفراش امي على الايفون سيري زبطي عريس قول له لابن الحلال يستنى لانه العالم عم بستناني بلاقي شريكي بعد ما الاقي حالي حاليا صحتي العزوبيه صباح الظهريه المرخيه
انت نجوزك يما
C'était Dig, Dig, Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Tout au long de cette semaine et dans ce magazine dédié aux découvertes musicales, vous avez pu entendre les disques The Storm Is Coming par No Jazz Quartet, sorti le 28 novembre via Mars Invasion Records, ainsi que Melchior Volume 1 de Forever Pavo, paru également le 28 novembre sur Bombard Records. Et enfin, c'est DJ Radio Barjo qui clôturait cette émission avec un set depuis les locaux de Radio Dio à Saint-Étienne. Pour réécouter cette émission et en savoir plus sur les albums soutenus, rendez-vous sur www.ferrarock.org.